Bonjour tout le monde, ceux qui n'ont pas salué. Voilà, j'aimerais prendre un verset dans le chapitre 5 de 1 Jean, dans la première épître de Jean, pas dans l'évangile de Jean. Vous n'êtes pas obligé de chercher forcément parce que le verset est très court que je vais prendre. Il s'agit du verset 8. Du verset 8. Alors je pense que dans les vers, suivant les versions, il peut y avoir une différence de versets dans ce chapitre. Ça fait partie des chapitres de la Bible où il y a quelquefois des petites différences dans la numérotation des versets. Voilà, il y en a trois qui rendent témoignage sur la terre. L'esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. Ça paraît simple à dire, enfin compliqué et simple, hein, parce que c'est compliqué peut-être à comprendre, mais c'est simple à dire, à retenir. Et on va voir quel est ce témoignage. Et ça, c'est au verset 11. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Donc voilà, en résumant, il y en a trois qui rendent témoignage sur la terre. L'Esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. Et leur témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Celui qui a le Fils a la vie. Donc le témoignage, c'est que on a la vie de Dieu en nous. Pourquoi j'étais interpellé par ce passage? Eh bien parce que souvent on demande aux gens de donner leur témoignage. Je me rappelle quand j'étais enfant, c'était la hantise, quand on allait dans des églises où... Quand on était de passage, tu vas donner ton témoignage. Et il fallait venir sur l'estrade et donner son témoignage. Et voilà, on peut penser que c'est ça le témoignage. C'est bien de le faire. Je pense que par exemple lors d'un baptême, c'est important parce que ça donne à la personne l'occasion de déclarer publiquement que Jésus a fait quelque chose dans sa vie. Ça permet aussi à la personne de raconter aux autres ce qu'elle a fait. Ça permet bien sûr aux autres de déceler si c'est vrai ou pas, si ça sonne juste ou si ça sonne creux. Mais c'est pas ça le témoignage. Le témoignage n'est pas un discours verbalisé, quelque chose qui va être donné en un quart d'heure ou en cinq minutes devant un public. Le témoignage sur la terre est donné par l'Esprit, avec un grand E bien sûr, par l'eau et par le sang. Et c'est eux qui portent témoignage. C'est eux qui rendent témoignage. Pourquoi je dis ça? Parce que quelquefois, on peut penser, « Oh, moi, je n'ai pas une histoire extraordinaire à raconter en comparaison avec quelqu'un qui a un témoignage extraordinaire, comment il était malfaiteur, etc. Il a fait tout ce qu'il ne fallait pas faire sur la terre et Dieu l'a changé, etc. » C'est des témoignages qu'on aime avoir, qu'on aime entendre. On invite des gens de loin pour qu'ils viennent donner ce genre de témoignages. Et puis, vous avez des gens, des malheureux qui sont là en train de dire « Moi, je n'ai jamais vraiment fait de mal dans ma vie. Je suis désolé. mais le Seigneur m'a quand même sauvé. Et parce que j'étais pécheur. » Et ceux-là, ils ont l'air un peu moins intéressants, ils ont l'air un peu moins spectaculaires. Ce qui est sûr, c'est que Dieu sauve des gens qui ont un passé acceptable, louable même, et des gens qui ont un passé de malfaiteur. Mais que le témoignage, ce n'est pas ce qui est dit de ce que Dieu a fait dans la vie, c'est ce que Dieu a fait dans la vie, qui est le témoignage. Et le premier qui rend témoignage, c'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu rend témoignage premièrement à notre esprit, que nous sommes enfants de Dieu. Il y a quelque chose qui fait que, à un moment donné de notre existence, à partir d'un moment de notre existence, lorsqu'on a rencontré Dieu, on peut dire « Je suis son enfant ». Mais le dire, n'importe qui peut le dire, même un perroquet, on pourrait lui apprendre à dire ça. Mais il y a quelque chose qui doit témoigner dans notre vie, qui doit parler au-delà des paroles, si vous comprenez. Parce que ça, c'est facile à dire « je suis un enfant de Dieu ». Il y a même un mouvement terrible, diabolique, qui s'appelait les enfants de Dieu. Donc c'est facile à dire « je suis un enfant de Dieu ». Dans le catéchisme, on peut apprendre ça, on dit même que tout le monde, finalement tout le monde est les enfants de Dieu. Donc si je suis un humain, je suis un enfant de Dieu. Mais il y a quelque chose qui doit parler au travers de nous et qui doit dire « je suis un enfant de Dieu ». Et cette chose, premièrement, qui témoigne ou qui parle, c'est l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu doit confesser, doit s'exprimer au travers de nous, pas forcément par des mots, pour montrer qu'on est enfant de Dieu. Si vous regardez les enfants ici présents, eh bien on peut reconnaître les parents. Ils n'ont pas besoin de dire « je suis l'enfant de tel et tel ». Si on regarde bien, on comprend. On voit qu'il y a des ressemblances. On voit qu'il y a quelque chose qui témoigne, n'est-ce pas, qu'ils sont enfants de Dieu, qu'ils sont enfants de leurs parents, pardon. Et on voit aussi quelque chose, c'est que quand il y a un problème, il faut regarder juste, il faut suivre la direction, ils jouent sur le terrain, il suffit de suivre du regard vers qui ils vont pour parler de ce problème. Voilà. Quand ils ont faim, quand ils ont quelque chose à exprimer, eh bien c'est en priorité vers leurs parents qu'ils vont. Et ça, ça témoigne. Sans qu'ils disent « je suis le fils de, je suis la fille de », ça témoigne qu'ils sont enfants de Dieu. Parce qu'ils ont l'esprit, n'est-ce pas, de leurs parents. Parce que leurs parents leur ont communiqué un esprit. L'esprit, c'est ce qui contrôle leur vie. C'est ce qui dirige leur vie. Et il doit y avoir chez nous, nécessairement, ça ne peut pas être autrement, il doit y avoir l'Esprit de Dieu qui se manifeste si on déclare qu'on est enfant de Dieu. Sinon, il vaut mieux pas se déclarer enfant de Dieu. Il vaut mieux dire « je ne suis pas un enfant de Dieu ». Parce que le témoignage de la bouche, s'il n'est pas attesté par l'Esprit de Dieu qui se manifeste au travers de nous, eh bien, c'est un mensonge. C'est une déclaration mensongère qui est terrible. Et l'avantage qu'aura le non-croyant, le païen ou l'athée, c'est qu'il dira la vérité. Quand il dira « moi, je ne connais pas Dieu, je n'ai pas Dieu en moi », c'est qu'il dira la vérité. Et on doit réfléchir à ça. Ces paroles sont là pour être prises au sérieux. La parole de Dieu est là pour être prise au sérieux, pour qu'on puisse méditer, qu'on puisse réfléchir, parce que la porte est ouverte, n'est-ce pas, pour demander l'Esprit de Dieu. Jésus a dit, si vous, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père Céleste vous donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le demandent. Ça veut dire que si vous mettez à genoux chez vous et vous dites, Seigneur, je veux recevoir le Saint-Esprit dans ma vie, je veux que le Saint-Esprit vienne remplir ma vie et se manifester au travers de moi, eh bien Dieu le fera. Évidemment, si vous le désirez et si vous le laissez faire, il se manifestera au travers de vous. Comment se manifeste l'Esprit de Dieu? Eh bien, il se manifeste par sa nature. Il se manifeste par ce qu'il est. N'est-ce pas? C'est ça qui est l'Esprit de l'homme. C'est juste révéler ce qu'ils sont en tant qu'hommes. L'Esprit de Dieu se manifeste et quand on voit les gens réagir, quand on voit les gens parler, quand on voit les gens se comporter, eh bien on voit qu'il y a la nature de Dieu quand ils ont reçu l'Esprit de Dieu. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui doit se manifester. Le témoignage doit être l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas? Il y a des gens qui ont donné des témoignages spectaculaires et il n'y avait pas le témoignage de l'Esprit de Dieu. Et c'est un drame. C'est un drame de avoir ça, parce que les enfants le croient pendant un certain nombre d'années, et ensuite, quand ils commencent à grandir, ils se posent des questions en disant « mais je l'ai cru, et pourtant je vois ceci, je vois cela. » Et ils remettent tout en question, c'est pas parce qu'il y a eu des faux témoignages qui ont été donnés. L'Esprit de Dieu se manifestera si Dieu est sur le trône de notre vie. Et je crois qu'on doit chercher en tant que chrétien à ce que Dieu soit sur le trône de notre vie. Pas juste qu'il nous donne le salut, pas juste qu'il nous donne l'assurance de la vie éternelle, pas juste qu'il nous donne le témoignage de la vie éternelle, mais qu'il nous donne qu'il ait toute la place de notre vie. Parce qu'un esprit, c'est ce qu'il fait. Il contrôle les comportements, il contrôle les pensées, il contrôle les décisions, il contrôle les réactions. Et Norman Meaton dit souvent, ou a dit à plusieurs fois, plusieurs reprises, qu'on reconnaît un chrétien pas à ses actions, mais à ses réactions. Parce que les actions peuvent être contrôlées, peuvent être calculées, les réactions beaucoup moins, n'est-ce pas? Et c'est là qu'on a besoin que l'Esprit de Dieu agisse. On a besoin qu'il soit sur le trône de notre vie, qu'il puisse avoir toute la place dans notre vie, qu'il puisse diriger notre vie. Et c'est une libération que d'être dirigé par Dieu. Parce qu'on n'a plus besoin de calculer, on n'a plus besoin de contrôler, on n'a plus besoin de contrôler les situations, on n'a plus besoin de faire en sorte qu'on soit obéissant à la loi, parce que l'Esprit de Dieu va nous rendre obéissants à la loi. Est-ce que ce matin je désire, est-ce que ce matin on désire que Dieu soit sur le trône de notre vie, qu'il puisse diriger notre vie? Pas juste être celui qui est intervenu dans notre vie, celui qu'on appelle pour venir quand il y a quelque chose qui ne va pas, mais celui qui dirige notre vie, qui conduit toutes choses dans notre vie. Et ça, c'est une recherche. Seigneur, je veux que tu sois sur le trône de ma vie et que tu conduises ma vie, que ce ne soit plus moi qui décide, que ce ne soit plus moi qui dirige, que ce ne soit plus mes décisions, mes ambitions, mes pensées personnelles, mes affects, mes passions, mes problèmes, mon passé qui dirige ma vie, mais que ce soit toi qui sois sur le trône de ma vie et qui dirige ma vie. Si on fait cette prière et si on cherche Dieu, mais ça demande d'y réfléchir souvent, de dire « Seigneur, voilà, moi je veux que tu sois sur le trône de ma vie. » Je me rappelle avoir entendu un message il y a longtemps, des années, de quelqu'un qui a prêché sur ça, sur le fait que beaucoup de chrétiens n'avaient pas placé Dieu sur le trône de leur vie. Que Dieu ne régnait pas dans leur vie. Et ça m'avait interpellé tellement profondément que je peux me souvenir de petits détails dans ce message qui ont été dit. Parce que je savais que pour moi, ça s'appliquait totalement, ce message-là. Et quand Dieu est sur le trône de la vie, c'est là où on découvre la liberté que Jésus avait promise. Il avait dit que si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Vous serez libéré de pouvoir vivre avec une conscience pure et n'étant pas soumis à la loi. Parce que ce qui se passe quand Dieu n'est pas sur le trône de la vie, eh bien, on veut plaire à Dieu, n'est-ce pas? Et ça, c'est très bien écrit dans Romains, à la fin de Romains 7. On veut faire le plaisir à Dieu parce qu'on le connaît, parce qu'on l'a accepté, parce qu'on a vu qu'il est intervenu dans notre vie, parce qu'on sait qu'il est, on sait, on croit dur comme fer, on le sait, n'est-ce pas, qu'il est le Dieu qu'il nous faut, que c'est lui qui est la vérité, qui est le chemin, n'est-ce pas, et la vie. Et on veut lui faire plaisir, mais il y a quelque chose qui fait qu'on n'y arrive pas. Il y a quelque chose qui fait qu'on est mis en échec à chaque fois. Et donc la loi est là pour nous rappeler, tu vois, tu as encore raté. Redresse-toi, relève-toi et marche. Alors on se relève, on marche et on retombe. Et il y a la loi qui nous dit relève-toi et marche, car c'est mal d'être par terre comme ça. Et il y a cet échec perpétuel qui caractérise les vies, qui a caractérisé ma vie pendant longtemps de chrétien. Mais il y a la grâce de Dieu qui peut se manifester au travers de nous. Lorsque l'on reconnaît d'abord que l'on a besoin que Dieu soit sur le trône de notre vie, que l'on a besoin que de, de demander à Dieu jour après jour, Seigneur, sois celui qui dirige ma vie. Sois celui qui conduit mes émotions, qui conduit mes réactions, qui conduit mes paroles, qui conduit mes actes. Je veux me nourrir de toi. Je veux t'obéir. Je veux que tu sois sur le trône de ma vie. Les prières changent quand c'est le cas. Les prières commencent à changer. Au lieu de dire, Seigneur, fais ça pour moi. Ça, c'est le signe que vous êtes sur le trône, que Jésus est en bas à votre service. C'est un des blasphèmes les plus flagrants que les chrétiens font. Les non-chrétiens ne font pas ce genre de blasphème. C'est les chrétiens qui font ce genre de blasphème. Seigneur, fais ça pour moi. J'ai besoin que tu fasses ça pour moi. Tu vois dans le cas, dans la situation dans laquelle je me trouve, il n'y a que toi qui peux faire ça. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas prier, demander, supplier à Dieu. Mais l'attitude qui consiste à se positionner et demander que Dieu fasse ceci, cela pour soi, c'est une attitude de maître qui s'adresse à un esclave. Et quand les gens ont placé Dieu sur le trône de leur vie, il y a quelque chose qui change dans la nature de la prière. Et la prière devient de l'adoration, ça devient de la prosternation devant Dieu et de l'adoration en esprit en vérité. Parce que l'esprit rend témoignage. Parce que l'esprit commence à s'exprimer même dans les prières, même dans les moments de louange. Et il y a quelque chose qui fait qu'on a envie de passer du temps avec Dieu, qu'on a besoin de passer du temps, mais pas parce que ça va nous faire du bien, pas parce que ça va nous satisfaire, pas parce que ça va nous rassurer, mais parce qu'on l'aime. Et parce qu'on a conscience du privilège énorme que nous avons qu'il est sur le trône de notre vie. Et c'est là où, quand des hommes et des femmes ont laissé Dieu être sur le trône de leur vie, que leur vie devient un témoignage. C'est là où ce qu'ils vont faire, ce qu'ils vont être, devient un témoignage et une bénédiction. Ils n'ont pas besoin de savoir parler, ils n'ont pas besoin de venir au micro, ils n'ont pas besoin de prêcher, ils n'ont pas besoin de rendre témoignage tel qu'on l'entend dans les milieux évangéliques. Parce que tout témoigne, parce que l'Esprit témoigne. Et si vous êtes troublé dans votre conscience par quelque chose et que vous approchez de ces personnes, vous allez sentir la souillure de votre vie. Pourquoi ? Parce que l'Esprit témoigne. L'Esprit de Dieu témoigne au travers de cette personne. Et l'Esprit de Dieu met le doigt sur les choses qui ne vont pas. C'est ça que Dieu veut. C'est ça l'Évangile. C'est ça la parole de Dieu, ça n'est rien d'autre. L'Évangile n'est pas un historique, ce n'est pas un message où il faut adhérer, auquel il faut adhérer et dire « voilà, je crois que je suis sauvé, je déclare par la foi que je suis sauvé ». C'est une vie qui est totalement transformée et où le Saint-Esprit vient s'exprimer à travers de nous. Pourquoi Dieu veut cela ? Pourquoi c'est le message de l'Évangile ? Parce que Jésus le dit, Jésus l'explique très clairement. C'est que lui était sur la terre pour un temps limité. Il allait remonter vers son Père et il faut qu'il y ait des représentants de Jésus. Il faut qu'il y ait le témoignage, n'est-ce pas ? Dans l'Ancienne Alliance, il y avait le témoignage. Le témoignage se trouvait dans l'Arche de l'Alliance. C'était le bâton d'Aaron, c'était la manne, c'était les 10 commandements, c'était la loi. Mais le témoignage, ça n'est plus ça. L'Arche de l'Alliance a disparu, personne ne la retrouvera. Mais nous avons un autre témoignage, et c'est l'Esprit qui témoigne sur la terre. L'Esprit de Dieu témoigne. Et quand des gens ont été transformés par l'Esprit de Dieu, quand ils ont été régénérés, et quand leur vie quotidienne est le témoignage de la vie de Dieu, le miroir de Dieu, sur la terre. Et quand les gens regardent et disent « Je vois qu'il y a quelque chose de Dieu dans cette personne. » On voit mal, les choses ne sont pas claires comme si on était dans la présence de Dieu. Mais ces gens sont un reflet, sont un témoignage de Dieu, sont le reflet de Dieu. Donc le premier qui rend témoignage, c'est l'Esprit. Et l'Esprit ne peut rendre témoignage que si Dieu est sur le trône de notre vie. Est-ce que ce matin on accepte ? Est-ce que ce matin on veut dire « Seigneur, je veux que tu sois sur le trône de ma vie, je cède la place. Je me lève de mon fauteuil, de mon trône, et je te laisse toute la place. On devrait revenir à ce système qui existait dans l'armée du salut avant. N'est-ce pas un très bon système où les gens pouvaient à chaque fin de réunion venir devant, s'agenouiller ou s'asseoir sur le banc des pénitents, on appelait ça le banc des pénitents. Ça permettait aux gens de marquer leur décision. Ça permettait de publiquement dire « moi je réponds ». C'est pas du tout de quelque chose qui doit se faire nécessairement à la suite d'une prédication. Ça doit être au fond là, à chaque réunion, où les gens peuvent venir et dire « voilà, moi, je voudrais ça dans ma vie ». Et on aurait les gens qui viennent pour la première fois, mais les gens qui viennent pour la centième fois, les gens qui sont chrétiens depuis longtemps, qui ne peuvent pas facilement exprimer publiquement parce que les gens ne comprendraient pas, qui ne peuvent pas publiquement exprimer qu'ils ont besoin de l'œuvre de Dieu dans leur vie, qui pourraient venir s'asseoir pour que quelqu'un prie pour eux. Et ça, c'est quelque chose qui se perd, n'est-ce pas, maintenant, on est dans une vision moderne des églises et les choses comme ça, ça rendait très solide les engagements avec Dieu. Il est très sérieux. Les gens venaient au culte en tremblant parce qu'ils savaient que s'ils ne tremblaient pas, peut-être qu'ils allaient devoir venir devant. Et ça faisait réfléchir. Mais si Dieu est sur le trône de la vie, il y a d'autres caractéristiques. Non seulement l'Esprit de Dieu va se manifester, mais la pureté, l'eau, va se manifester. Si ne tournez pas non plus, mais dans Apocalypse, au dernier chapitre 22, et il me montra au premier verset, il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Dans vos vies, il y a un trône, de toute façon. Il n'y a pas besoin de le construire, il y a un trône. Il y a un esprit qui est sur ce trône. C'est soit le vôtre, et si c'est le vôtre, c'est quelqu'un d'autre. C'est l'esprit du mal qui est sur le trône de votre vie. Ou c'est l'esprit de Dieu qui est sur le trône de votre vie. Mais il y a une chose qui caractérise les trônes dans le sens biblique, c'est qu'il y a, de l'eau qui coule de ce trône. Ici, c'est clairement écrit, dans cette vision que Jean a eue du ciel, il me montra un fleuve d'eau de la vie limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Il y a donc un fleuve qui sort de ce trône. Que vous soyez à Christ ou pas, sur le trône de votre vie, il y a de l'eau qui coule. Ce n'est pas forcément un fleuve, c'est peut-être un ruisseau, mais il y a de l'eau. Simplement notez ici que l'eau est limpide comme du cristal et qu'il s'agit d'un fleuve. Quand Dieu est sur le trône d'une vie, l'eau qui sort de la personne doit être limpide comme du cristal. Il doit avoir la pureté. Il doit avoir la marque du ciel. Les paroles qui sortent, c'est de l'eau. Jésus a dit que celui qui a soif vienne à moi et qu'il boive. Est-ce que, bien sûr, ça serait prétentieux de le dire, de s'approprier les paroles de Jésus, mais est-ce qu'on peut dire que celui qui a soif vienne à moi et qu'il boive? Et on ne devrait pas le dire, Jésus devait le dire parce qu'il annonçait l'évangile. Mais est-ce que les gens peuvent venir à vous et boire? Et qu'est-ce qu'ils vont boire? De l'eau empoisonnée? De l'eau pure? Ou est-ce qu'ils vont boire une eau souillée? Une eau amère? Une eau qui détruit, qui apporte la mort? Ézéchiel a eu dans sa vision du temple de Dieu. Et sa vision du temple de Dieu n'est rien d'autre, selon moi, que la vision du temple des hommes et des femmes de la Nouvelle Alliance qui connaîtraient le Saint-Esprit. Et il a vu que l'eau montait et que c'était devenu comme un grand fleuve qui coulait dans Jérusalem. Il allait se jeter dans la mer morte. et ce fleuve d'eau vive, ce qui coulait du temple, eh bien, il y avait des arbres qui poussaient et la vie qui commençait à paraître. Et voilà l'œuvre de Dieu dans une vie. C'est que lorsqu'il prend la place sur le trône de la vie d'une personne, il produit une eau pure qui commence à couler. C'est peut-être pas un fleuve au début. Si vous lisez dans Ézéchiel, je crois que c'est 47, je ne suis pas sûr, eh bien, vous allez voir qu'au début, c'est un tout petit peu. Puis progressivement, ça devient un fleuve. Mais c'est une eau pure. Jacques, qui est un apôtre qui est tellement clair, tellement terre à terre dans ce qu'il dit, mais au moins c'est clair. Si vous lisez l'épître de Jacques, vous en avez pour vos sous, hein. Enfin, ça ne coûte rien, mais je veux dire, ça veut dire que il vous remet en place. Si vous lisez l'épître de Jean aussi, les épîtres de Jean aussi, ils vous remettent en place. Pourquoi ? C'est parce que c'était des apôtres qui connaissaient la puissance de Dieu. Et Jacques, il a dit que il a parlé de la langue. Il a parlé de la langue comme quelque chose de terrible, n'est-ce pas ? Et il a dit que une source, est-ce qu'elle va donner une eau pure et une eau amère ? C'est pas possible, c'est ce qu'il dit, c'est pas possible. Et il dit de même, vous, est-ce que vous allez donner, je paraphrase bien sûr, des paroles douces et des paroles amères ? Il faut pas qu'il en soit ainsi, mes frères, c'est ce qu'il dit. Et il peut pas y avoir deux sources qui jaillissent de nous. Il peut pas y avoir deux sources d'eau, une amère et une douce. Parce que la douce serait contaminée de toute façon par la source amère. Et si l'eau témoigne sur la terre, c'est ce que vous communiquez au monde, qui est un témoignage de l'Esprit de Dieu, si l'Esprit de Dieu est en vous. Il y a quelque chose qui fait que les gens vont venir boire, que les gens vont venir se désaltérer, mais il y a aussi quelque chose qui purifie, quelque chose qui nous lave premièrement. Parce que l'eau que Dieu donne, c'est une eau qui purifie. N'est-ce pas? Si vous lisez dans Éphésiens 5, l'apôtre Paul dit que Christ est venu pour laver l'Église avec l'eau et la parole. C'est frappant, ça. Et cette eau qui témoigne sur la terre, c'est l'eau que Dieu a proposée à la Samaritaine. C'est au puits de Sichar. Il lui a offert cette eau. Il lui a donné cette eau. Cette eau qui ne donnerait plus jamais soif. Qui ne donnerait plus jamais soif d'autre chose que cette eau qu'il donnait. Et le problème des hommes et des femmes et les problèmes des chrétiens dans les églises, c'est qu'ils ont soif d'autre chose. C'est qu'ils ont soif de ceci et cela. Ils ont soif de satisfaire leurs ambitions. Ils ont soif de satisfaire leurs passions. Ils ont soif de satisfaire leurs désirs, leur volonté, leur bien-être, leur confort. Alors que l'eau que Dieu veut donner, que Jésus veut donner et veut faire couler au travers de nous, c'est une eau qui fait qu'on n'a plus soif d'autre chose que de cette eau-là. Et ça, c'est une eau qui rend témoignage sur la terre. L'Esprit rend témoignage, l'eau rend témoignage sur la terre. Est-ce que de nos vies jaillit ce fleuve d'eau vive, ou au moins de l'eau pure, limpide comme du cristal ? Si ce n'est pas le cas, on devrait avoir encore ce banc, n'est-ce pas, où les gens pourraient venir. Vous savez que quand Dieu agit, quand il y a des bénédictions, eh bien les gens répondent. Et beaucoup de gens répondent. Je me rappelle, quand j'étais jeune, je me rappelle des réunions sous la tente, des réunions d'évangélisation, où tout le public s'est avancé. Tous voulaient. Alors c'est un peu embêtant, mais ça prolonge les réunions. Hein. Ça veut dire qu'il faut prier pour chacun. Quand il y en a un, ça va, ça dure une minute. Mais quand il y a tout le monde, et comme disait Norman, en Inde, c'est des centaines qui viennent et ensuite ils se remettent à la file pour une autre prière. Mais ça, c'est des gens qui ont soif de connaître Dieu. Ils ont reçu une bénédiction, donc ils sont là pour la prochaine. Que Dieu nous rende comme ça. Que Dieu fasse couler cette eau au travers de nous pour qu'on soit une bénédiction. Que les paroles qui sortent de notre bouche soient des paroles, non pas amères, mais des paroles douces, des paroles qui font du bien, des paroles qui réconfortent, des paroles qui donnent à boire à ceux qui ont soif, n'est-ce pas, de Dieu, et bien qu'ils reçoivent ce dont ils ont besoin. Il y en a trois qui rendent témoignage de la vie de Christ sur la terre, c'est l'Esprit, l'eau et le sang. Et le troisième, c'est le sang. Le sang rend témoignage. Il est question de ça dès le début de la Genèse, avec le sang d'Abel. Quand Dieu s'est adressé à Caïn, il a dit « Le sang de ton frère crie vers moi ». Donc le sang parle. Il y a un autre sang qui parle plus que celui d'Abel, qui est le sang de Jésus, qui parle. Vous voyez, on pense toujours qu'on doit parler avec sa bouche. Mais l'Esprit parle, l'eau parle et le sang parle. Et qu'est-ce que ça veut dire? Que le sang rend témoignage. Eh bien, je pense plusieurs choses à ça. Je pense que, bien sûr, c'est le sang de Christ sur nos vies, dans nos vies, sur tous les domaines de notre vie, qui parle. Ça parle à un monde spirituel qui ne peut pas nous atteindre, qui peut nous attaquer, mais qui ne peut pas nous atteindre. S'il y a le sang qui est sur notre vie, parce qu'il a peur du sang de Jésus. Les gens qui sont très troublés spirituellement ne peuvent pas supporter qu'on parle du sang de Jésus. Parce qu'il y a une puissance, n'est-ce pas, dans... c'est à cause du fait que le sang de Jésus a coulé sur la croix que les hommes et les femmes peuvent être sauvés, que l'Église est encore debout au 21e siècle, que les systèmes ont essayé de détruire. Combien de systèmes idéologiques, combien de systèmes politiques ont essayé de se lever, détruire le christianisme, de détruire le peuple de Dieu. Ils n'ont pas réussi. Et au plus qu'ils se sont acharnés, au plus qu'ils ont consolidé l'Église, et ils ont fortifié l'Église. Parce qu'il y a une puissance contre laquelle ils ne peuvent pas lutter. C'est le sang de Christ qui a coulé sur la croix. Et c'est fini. Quand Jésus a dit « Tout est accompli », il savait très bien qu'il n'y avait pas d'autre chose qui devait être faite, que jusqu'à la fin, il y aura le témoignage sur la terre. Jusqu'à la fin, il y aura le témoignage. La question est de savoir, c'est est-ce que vous et moi, vous voulez faire partie de ces témoignages? Vous voulez être l'arche de l'Alliance qui porte en eux, en lui, le témoignage? C'est ça la question. Mais de toute façon, le témoignage existera. Et si en France, il n'y a plus d'hommes et de femmes qui servent le Dieu vivant et vrai, tel que l'Évangile le veut, il y en aura à l'autre extrémité de la terre. Mais c'est un drame s'il n'y en a pas en France. Et on doit dire, Seigneur, je veux être ce témoignage. Et le sang de Christ, est-ce que le sang de Christ vous a purifié? Est-ce que ce matin, vous pouvez dire, je suis purifié, je me sens pur, je me sens pardonné? Parce que le sang de Christ m'a purifié. Et est-ce que ce sang est sur tous les linteaux de votre vie, sur tout, recouvre totalement votre vie, de sorte que l'ennemi ne peut pas vous atteindre? Parce que vous êtes protégé par la mort de Christ. Et ce sang rend témoignage. Je pense que quelqu'un qui est tourmenté par les mauvais esprits ne peut pas supporter, se trouver pas en présence de quelqu'un qui est chrétien avec Dieu sur le trône de sa vie. Parce que si Dieu est sur le trône de la vie, le sang de Jésus est sur toute la personne et le diable le sait. Et le diable en a peur. Il n'y a rien besoin de faire. Il n'y a pas besoin de crier pour chasser le diable. Le diable se tiendra éloigné parce qu'il y a le sang de Christ. Mais je crois qu'il y a un autre sang qui rend témoignage, pas seulement le sang de Christ, ou parce qu'il y a le sang de Christ, il doit y avoir le sang des chrétiens. Ça paraît bizarre, ça paraît... Dans notre culture, il faut faire attention, parce qu'on pense tout de suite aux islamiques, on pense tout de suite à ceux qui se consacre à être martyr pour tuer les autres, ça n'a aucun sens. La question, c'est que le sang d'Étienne a parlé. Le sang d'Étienne a touché le cœur d'un certain Saul de Tarse. Ce n'est pas écrit, sauf qu'il est dit que Saul de Tarse était témoin et il a prouvé ce qui se faisait contre Étienne. Mais je garantis que le sang d'Étienne a parlé à la conscience de Saul de Tarse pendant les jours qui l'ont séparé de cet événement et de sa conversion. Et le sang des chrétiens parle. Quand vous entendez que des gens sont mis à mort parce que simplement ils aimaient Jésus-Christ, ça parle, ça donne envie de pleurer, ça touche le cœur et ça nous remet en question. Ça nous fait approcher de Christ. C'est le témoignage que Dieu est réel. Que pour ces personnes qui n'avaient besoin que de renier leur Christ, eh bien sont prêts à mourir. Bien, c'est le témoignage, c'est quelque chose qui parle, qui touche nos cœurs. Mais la question, c'est que, est-ce que nous sommes prêts à donner notre sang? Est-ce que nous sommes prêts à donner notre vie pour Christ? Parce que c'est ça qui va permettre le témoignage. Et l'Évangile n'est rien d'autre que ça. L'Évangile n'est rien d'autre que ça. On devrait dire ça au baptême. On devrait dire ça avant le baptême, parce que c'est un peu trop tard le jour du baptême. On devrait dire ça à quelqu'un au baptême, qui se prépare au baptême. Est-ce que tu es prêt à mourir pour Christ? Pas pour une idéologie, pas pour faire en sorte que quelque chose se perpétue, mais est-ce que tu es prêt à ce que, s'il faut, ton sang puisse servir de témoignage, puisse s'exprimer et parler et toucher les cœurs? Vous savez, je le dis souvent, je l'ai dit plusieurs fois, mais c'est bon, parce que finalement, ça va nous marquer et peut-être nous faire réfléchir à un moment donné. On connaît Jean 3,16 par cœur. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Mais on connaît moins 1 Jean 3,16. Et la première épître de Jean, au chapitre 3, verset 16, nous dit « Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. » C'est Jean 3,16, résumé ici en 1 Jean 3,16. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons, mais à la suite, c'est nous aussi. Nous devons donner notre vie pour les frères. L'Évangile, c'est ça. C'est de donner sa vie pour les autres. Et là, le monde évangélique, et je ne parle pas contre le monde évangélique du tout, parce que tout système est forcément rempli de défauts. Mais le monde évangélique se dévie de cet aspect-là. En présentant un évangile bon marché. L'évangile du salut, de la guérison, de la délivrance qui va vous donner le bien-être. Et quelquefois on ajoute de la prospérité qui va donner la richesse. C'est faux. Ce n'est pas du tout l'évangile qui est là, écrit là. L'Évangile, c'est la vie éternelle, l'annonce de la vie éternelle, du salut certes, de la délivrance, du pardon, mais dans le but d'être le témoignage de Christ sur la terre, dans le but d'être comme Jésus était sur la terre. C'est dans le but de donner sa vie, parce que Jésus a donné sa vie. Ce n'est pas un autre but que celui-là. C'est ça l'évangile de Christ. Est-ce qu'on veut connaître cet évangile qui nous libère de nous-mêmes, qui libère à un point où on dit « Mais ma vie, je la donne à Dieu. Il en fait ce qu'il veut. Et je suis content que c'est lui qui est sur le trône de ma vie. » Et le sang peut parler que si Dieu est sur le trône de votre vie, s'il peut faire de votre vie ce qu'il veut et de votre corps ce qu'il veut. Que Dieu puisse faire ce miracle en nous, d'être sur le trône de notre vie, afin que le témoignage sur la terre, au travers de nos vies, soit l'Esprit, l'eau et le sang. Amen.